Bien, je suis heureux de vous accueillir à cette troisième séance de l'année 2016-2017 de notre séminaire, celui de la chaire Exil et Migration du Collège d'études mondiales, pour une séance intitulée « Ça coûte combien un migrant ?» Et quand je cherchais une illustration pour annoncer cette séance, ce qui m'est venu à l'esprit, c'est l'image que j'ai utilisée pour annoncer cette conférence, c'est la reproduction d'un tableau de 1903 de Picasso qui s'intitule soit le vieux juif, soit le mendiant. Et dans ce double intitulé, il y a déjà d'une certaine manière la problématique qui va nous intéresser ce soir. Est-ce qu'il y a une approche économique de ce phénomène de la migration, si on prend le juif comme image même allégorique de l'être ou du sujet en migration. Je suis heureux d'accueillir pour cette séance mon collègue de l'Université de Lille, le professeur Xavier. Alors, il m'a demandé de prononcer. Moi, j'ai une tendance à le prononcer à la polonaise, mais ça se fait pas. Donc, je dois me forcer à le prononcer à la française. Vous vous rendez compte? Chojniki.
C'est parfait.
Xavier Chojniki est professeur d'économie à l'Université de Lille et chercheur associé à la chaire Transition démographique, Transitions économiques. Ses thèmes de recherche portent sur les conséquences économiques de l'immigration, les effets du vieillissement démographique, les réformes des systèmes de retraite et de protection sociale. Il a publié de nombreux travaux sur la question de l'impact de l'immigration sur les finances publiques et notamment coécrit un ouvrage publié en 2012 Lionel Rago, ouvrage intitulé « On entend dire que l'immigration coûte cher à la France ». Qu'en pensent les économistes, publié aux éditions Erol. Et je dois dire que ça a été dans ma propre réflexion un ouvrage très très important. Bien sûr, je suis heureux de l'accueillir en tant que personne, en tant que chercheur, et je nourris un grand respect, un grand intérêt pour la discipline qu'il représente. Et en même temps, il y a en moi une légère contrariété sur cette question de ce qui m'intéresse dans cette chaire, de ce qui nous intéresse, la migration contemporaine sous contrainte, une contrariété qui consiste à ne pas pouvoir me contenter d'arguments moraux et philosophiques, mais devoir aussi en passer par l'économique, au sens de l'intérêt économique. Et d'une certaine mesure, pour prendre un autre exemple, le débat en cours sur le revenu universel reflète aussi cette ambivalence où on ne peut pas se contenter des principes, ce que idéalement, dans les sciences humaines et sociales, on aimerait beaucoup faire, mais où justement on a besoin de l'expertise de chercheurs sur le terrain avec des données factuelles, objectives, empiriques. Et puis l'actualité vient nous prêter main forte quand je constate que le décret que passe l'actuel président des États-Unis, M. Trump, contre l'immigration en provenance des pays musulmans, va à l'encontre et des intérêts économiques américains et même des intérêts de la maison Trump elle-même. Donc il y a un besoin de comprendre. L'économie, parce qu'il y a aussi une économie de la migration, ou plus exactement des économies de la migration, bien sûr la manière dont les migrants contribuent ou non à l'économie d'un pays, mais aussi une économie de la protection des frontières européennes, par exemple, une économie pour assurer le sauvetage des migrants, une économie des passeurs, etc. Comment les étudier, comment les considérer? Et encore une fois, j'aime à penser à ce migrant comme une figure idéale, mais ce migrant, c'est aussi un sujet en migration qui migre parce que l'économie fait partie du vécu. Et on ne peut pas considérer le vécu sans cette réalité qui s'appelle l'économie. Et je suis donc heureux de pouvoir consacrer une séance de ce séminaire à cette question. Je vous cède la parole.
Merci beaucoup. Et merci grandement pour cette invitation à la fois chaleureuse et amicale. Donc on m'a demandé d'intervenir sur la question de savoir quel était l'impact de l'immigration en France, et en particulier un migrant, ça coûte combien? Je vais essayer de vous donner quelques éléments de réponse et essayer de synthétiser un petit peu ce que les économistes ont à dire sur cette question. Alors d'abord, hein, les économistes ne s'intéressent pas uniquement à la question du coût de l'immigration, et j'ai listé un petit peu hein, quelques-unes des thématiques qui particulièrement pouvaient être traitées dans le champ de l'analyse économique. Les économistes s'intéressent d'abord à la question de savoir pourquoi les gens migrent et voient cette décision migratoire comme une analyse coût-bénéfice. Les économistes s'intéressent également à l'impact de l'immigration, par exemple, pour les pays en voie de développement. On a en tête les conséquences, par exemple, de la fuite des cerveaux. Je ne vais pas lister toutes les questions, mais simplement pour signaler qu'on va uniquement se focaliser ici précisément sur certaines des thématiques que j'ai fait apparaître en couleur rouge, hein, pour clairement identifier les questions qui vont m'intéresser. Alors, le point de départ, exceptionnellement, est de se dire que cette question de l'immigration, elle est également et surtout politique. Alors, c'est une question qui revient très régulièrement, et j'ai mentionné ici trois des interventions relatives aux trois candidats qui étaient arrivés aux trois premières positions à la dernière élection présidentielle, qui, tous les trois, avaient quelque chose à dire en la matière. J'ai également listé pour trois des candidats à l'élection présidentielle de 2017 quelques éléments de leur programme qui portent également sur l'immigration, simplement pour rappeler que cette question, elle est à la fois économique, elle est plus généralement reprise dans le débat politique, et on va, à certains moments hein, dans ma présentation, se positionner par rapport à ça. Alors, je mets en garde simplement également sur le fait que je suis économiste et que, de fait, je vais uniquement proposer une approche qui sera à mi-chemin entre la démographie et l'économie, hein, de cette question migratoire. J'espère que ça ne vous choquera pas. Alors, voici un peu le plan de ma présentation. Je pense que, étant donné qu'on a commencé un petit peu en retard, on va déjà partir sur le fait que l'on va probablement zapper la dernière partie qui portait sur l'intégration des immigrés. Donc ce que j'aimerais faire, c'est commencer assez rapidement par rappeler ce que j'ai appelé quelques réalités arithmétiques de l'immigration en France, c'est-à-dire proposer un petit peu un panorama de ce qu'est l'immigration, s'intéresser ensuite à la question de l'impact de l'immigration sur le marché du travail, et on se posera deux questions. Est-ce que les immigrés tirent les salaires vers le bas, d'une part, et est-ce que les immigrés prennent l'emploi des Français, d'autre part? Dernière question que je traiterai est celle du coût de l'immigration, et ici, ce coût de l'immigration sera envisagé comme étant un coût pour les finances publiques, un coût éventuel, puisqu'on verra que la question est loin d'être tranchée. Alors voici les questions par lesquelles on va commencer. Donc, combien sont-ils, d'où viennent-ils? Est-ce qu'ils sont plus nombreux aujourd'hui qu'hier? Est-ce qu'ils sont plus nombreux en France qu'ailleurs? Est-ce qu'on peut parler d'invasion ou de pression migratoire? Et en quoi ces migrants se distinguent d'une certaine manière de la population autochtone? Et donc on va observer véritablement leurs caractéristiques. Est-ce qu'ils ont de spécifiques? Et on verra que ces caractéristiques qui leur sont propres vont expliquer une bonne partie des effets ou de l'absence d'effets de ces migrants, que ce soit sur le marché du travail ou en termes de finances publiques. Alors on va naturellement commencer par rappeler quelle est la définition de ce qu'est l'immigration. Donc on s'appuie pour cela simplement sur la définition qui est usuellement retenue en France, par exemple par des institutions telles que l'INSEE. Donc un immigré doit remplir en gros deux conditions, être né à l'étranger et avoir la nationalité étrangère à la naissance. Donc ça, c'est la définition qui a été annoncée au début des années 90 par le HCI. Alors qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne de fait, pour l'année 2012, hein, les années qui vous sont données sont les années d'exploitation des recensements de la population, ça nous donne environ 5,7 millions de migrants en France, ce qui représente approximativement pas loin de 9% de la population française. Alors, être immigré, ce n'est pas forcément être étranger, c'est-à-dire qu'on a une certaine fraction des étrangers qui ne sont plus considérés comme étant, enfin, qui ne sont pas des immigrés, et inversement, on a une partie des immigrés qui ne sont plus considérés comme étant étrangers, tous ceux qui ont fait la démarche d'acquérir la nationalité française. Alors, on a ici un premier graphique qui nous donne l'évolution du nombre et de la part des immigrés dans la population française. Si on observe ça à l'échelle du siècle des 100 dernières années, on observe que la part des migrants en France a plutôt eu tendance à augmenter. On est parti d'une part des migrants, donc au début du XXe siècle, qui se situait aux alentours de 3% de la population française, qui a grimpé jusqu'à atteindre 6,5%, c'était à la fin des années 30, qui a légèrement diminué et qui se situait aux alentours de 5% de la population française au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, qui a sensiblement augmenté jusqu'au premier choc pétrolier, qui est ensuite resté globalement stable jusqu'au début des années 90 et qui s'est mis à nouveau à augmenter à partir du début des années 2000. On verra naturellement que ce que je qualifie en langage économique de stock migratoire, ce stock migratoire, il est expliqué naturellement par l'évolution des flux migratoires. D'accord ? Alors si maintenant on adopte la définition internationale de l'immigration afin de pouvoir proposer quelques comparaisons, donc on regarde uniquement le lieu de naissance, cette fois-ci on abandonne la nationalité à la naissance, la France se situe avec une part d'immigrés dans sa population aux alentours de 11,6%, ce qui la situe grosso modo à mi-chemin des pays développés, c'est-à-dire qu'on a des pays qui ont des parts de population immigrée beaucoup plus importantes que ce qu'on constate dans l'économie française. En l'occurrence, on peut retenir par exemple le Royaume-Uni, les États-Unis, l'Allemagne, le Canada, et naturellement des petits pays européens mais avec des caractéristiques bien particulières que sont la Suisse ou le Luxembourg. Alors, être immigré, on a dit, c'est à peu près, l'immigration, ça représente à peu près 9% de la population française. Et pourtant, lorsqu'on interroge les Français, lorsqu'on leur demande d'évaluer quelle est la part de l'immigration en France, on s'aperçoit que la réponse qui est fournie à cette question est souvent bien plus élevée que la statistique telle qu'on l'observe, par exemple, dans les chiffres tels que délivrés par le recensement de la population. Alors, à cette question, les Français répondent en règle générale que la part des immigrés ressentis se situerait plutôt aux alentours de 25 à 30%. C'est-à-dire qu'il y a une confusion même sur la définition de ce qu'on entend par population immigrée. Alors, en règle générale, les Français font une confusion en ce sens qu'ils ajoutent à cette population immigrée au sens strict du terme ce qu'on appelle, en règle générale, les immigrés de seconde génération. Sachant que ce terme d'immigré de seconde génération est un terme assez impropre, en ce sens qu'est considéré comme étant immigré une personne qui a franchi une frontière. Alors, si on ajoute ce qu'on pourrait appeler ces descendants d'immigrés, on aboutit cette fois-ci à peu près à 20% de la population française en y ajoutant donc les deuxièmes générations. Donc, ce qui peut expliquer un petit peu cette confusion qui découle un petit peu de cette question qui est posée aux Français. Alors, en termes d'origine, on va aller assez vite hein, là-dessus, c'est des choses que tout le monde connaît assez bien, je pense. En termes d'origine, on a à peu près 35 à 40% d'immigrés en provenance d'un autre État européen et on a approximativement 30% d'immigrés en provenance d'un pays du Maghreb, donc Algérie, Maroc, Tunisie, pour donner vraiment les deux grands pôles, les deux grandes origines telles que constatées actuellement, donc citées ici pour des chiffres de 2013. Alors bien sûr, ces origines, la part de ces différentes origines a eu tendance à évoluer au cours du temps. C'est ce que montre un petit peu ce graphique hein, qui vous donne pour les différentes années du recensement, donc de 1975 à 2008, l'évolution de ces différentes origines. Et on voit que le poids des origines européennes a tendu à décroître au fur et à mesure du temps, quand le poids des autres origines, et notamment les migrants en provenance de pays asiatiques ou d'Afrique subsaharienne, a plutôt eu tendance, lui, à croître sur les années les plus récentes. Alors ces évolutions des origines et ces évolutions du stock, du nombre de migrants dans la population française est naturellement expliquée par le flux migratoire. Alors sur les années les plus récentes, c'est-à-dire sur les 10-15 dernières années, ce flux migratoire se situe aux alentours de 200 000 entrées par an. Alors c'est 200 000 entrées par an, il s'agit ici de migration extra-communautaire, à quoi il faudrait ajouter à peu près 40 000 à 50 000 migrants en provenance d'un autre État européen. Alors 200 000 migrants, c'est à peu près 100 000 sur ces 200 000, donc la moitié en provenance d'un pays d'Afrique, c'est à peu près un quart en provenance de pays asiatiques, pour donner un petit peu un panorama donc des flux par principales origines. Alors le motif d'entrée, les principaux motifs d'entrée, celui qui ressort le mieux, c'est naturellement le motif familial. Donc on a à peu près 45% des nouvelles entrées qui se font au titre familial. Donc ce n'est pas que le regroupement familial, hein, c'est le motif familial entendu au sens large. On a à peu près un tiers qui découle du motif estudiantin. Et s'agissant du motif économique et humanitaire, ça fait à peu près 20 000 personnes donc sur les 200 000 qui rentrent chaque année en France, pour donner un petit peu les ordres de grandeur. Alors les choses ont un petit peu évolué hein, récemment, particulièrement donc, s'agissant du motif estudiantin qui a quand même assez sensiblement augmenté lors des 10 dernières années, également s'agissant du motif économique avec une inflexion assez significative à partir de 2006-2007 avec un doublement donc, du nombre de personnes qui sont entrées en France pour un motif économique. Okay. Alors naturellement, assez récemment, on a connu également un accroissement assez sensible du nombre de personnes entrées en France pour en tant que demandeurs d'asile. Donc le nombre de demandes d'asile pour 2015 se situe aux alentours de 80 000 personnes et il y a à peu près un quart à un tiers de ces demandes d'asile qui ont effectivement abouti. Alors on en vient à la question de savoir est-ce que cette immigration est trop nombreuse. Donc une fois qu'on a rappelé un petit peu ces statistiques assez générales et assez bien connues. Alors est-ce que cette immigration est trop nombreuse? Donc là j'ai repris une citation de Claude Guéant hein, qui date de 2011, pardon, qui nous disait que avec 200 000 étrangers en situation régulière, ça représentait l'équivalent donc d'une ville comme Rennes ou de deux fois l'équivalent d'une ville comme Perpignan. Et il nous disait que selon lui c'était beaucoup trop. Alors naturellement, chacun se fera sa propre opinion de savoir est-ce que 200 000 personnes annuellement c'est beaucoup ou peu. L'idée est ici simplement de mettre en relation cette statistique au regard naturellement de la taille de la population française et également de ce qu'on a pu connaître antérieurement ou de ce que connaissent d'autres pays de taille, en tout cas de développement économique relativement comparable. Alors 200 000 migrants par an, déjà on peut signaler que c'est à peu près deux fois plus que le nombre de personnes qui entraient annuellement en France au milieu des années 90. Donc effectivement, la France a connu une inflexion significative du nombre d'entrées dans le pays. Alors 200 000 personnes maintenant rapportées à la taille de la population française, ça représente environ 0,35% de la population. Les démographes parleront plutôt de 3 à 3,5 pour 1000, tellement ce chiffre est relativement faible. Alors, avec 0,35% de la population, ça place la France quand même parmi les pays qui ont des taux d'immigration parmi les plus faibles, parmi les pays de l'OCDE. Alors, si on prend ici l'ensemble des pays de l'OCDE, le taux d'immigration moyen se situe aux alentours de 0,6 à 0,7% de la population. Donc on voit que la France, elle se situe quand même sensiblement en dessous de la moyenne des pays de l'OCDE, c'est-à-dire des pays les plus développés, parmi lesquels on retrouve par exemple des pays comme l'Allemagne ou le Canada qui ont des taux d'immigration deux fois supérieurs au taux d'immigration constaté en France. D'accord ? Donc ça permet déjà de relativiser un petit peu ce que représentent ces 200 000 personnes rapportées à la population française. Alors ensuite, lorsqu'on s'intéresse à l'impact démographique de l'immigration, il convient de signaler qu'il y a à la fois des personnes qui entrent chaque année sur le territoire français, mais également des personnes qui en sortent. Donc la différence entre les entrées et les sorties est mesurée par ce qu'on appelle le solde migratoire, donc différence entre les entrées annuelles et les sorties annuelles du territoire. Ce solde migratoire se situant, donc je l'ai repris là pour trois années différentes, se situant aux alentours de 95 000 personnes nettes pour l'année 2005, étant évalué aux alentours de 61 000 personnes nettes pour l'année 2015. Donc on voit qu'à nouveau, lorsqu'on rapporte ça à la taille de la population française, ça nous donne un solde migratoire de l'ordre de 1 à 1,5 pour 1000 s'agissant des années les plus récentes, ce qui est relativement faible. À nouveau, qu'est-ce qui me permet d'affirmer que c'est relativement faible ? Bah, c'est à la fois la comparaison internationale, mais également la comparaison temporelle, c'est-à-dire regarder dans le passé quel a pu être ce solde migratoire et rapporter les soldes migratoires antérieurs par rapport à ceux que l'on connaît lors des années les plus récentes. Alors, ce solde migratoire tel qu'on l'observe aujourd'hui, il est approximativement deux fois inférieur à celui qu'on observait, par exemple, au cours des années 60. Donc, vous avez ici des statistiques qui sont simplement reprises des statistiques officielles de l'INSEE, qui vous donnent l'évolution du solde migratoire en France sur un horizon temporel relativement long. On constate bien qu'au cours des années 50 et 60, c'est-à-dire là où on a véritablement connu une vague migratoire importante, ce solde migratoire, il était grosso modo deux fois plus élevé que celui qu'on constate actuellement. Ensuite, ce solde migratoire, il est d'un niveau incomparable à quelques-uns de nos voisins européens sur certaines dates particulières. Alors, prenez par exemple l'Allemagne, le solde migratoire, il se situe aux alentours de 10 pour 1000 au début des années 90. Si on prend des années un petit peu plus récentes, Royaume-Uni, États-Unis, on était aux alentours de 5 pour 1000. Espagne, les choses ont changé, mais s'agissant de l'Espagne, au milieu des années 2000, ce solde migratoire était aux alentours de 15 pour 1000. Donc à comparer à un solde migratoire de l'ordre de 1 à 1,5 pour 1000 dans le cas français. Donc le cas espagnol était 10 fois supérieur s'agissant de cette statistique migratoire comparativement à ce qu'on observe actuellement dans le cas français. Ça permet de relativiser quand même un petit peu la statistique. Alors ensuite, ce qui est intéressant, c'est de comprendre et de décomposer un petit peu ce solde migratoire. Ce solde migratoire, ce sont à la fois des entrées et des sorties, mais on se retrouve à la fois avec des entrées et des sorties de migrants, mais également des entrées et des sorties de Français. Okay ? Donc c'est ce qu'indique un petit peu ce tableau, qui résulte également d'une étude menée par l'INSEE, qui consiste à proposer un certain nombre de statistiques sur ces entrées et ces sorties du territoire national. Alors autant on arrive assez facilement à entrer les entrées sur le territoire national, autant une personne qui sort de France ne laisse aucune trace. Administrativement, il n'y a aucune démarche à accomplir pour quitter le territoire. Ça veut dire que les sorties, c'est quelque chose qui est relativement difficile à évaluer, mais l'INSEE propose, en comparant comme ça les différents recensements, propose une évaluation de ce nombre de personnes qui sortent et ce qui permet d'affiner finalement le solde migratoire. Alors, que nous révèle ce tableau ? Il nous révèle par exemple qu'en 2013, en France, il y a eu 235 000 entrées de migrants sur le territoire national, mais que dans le même temps, il y a eu 95 000 sorties de migrants. C'est-à-dire que si on fait la différence entre les deux, on obtient le solde net migratoire qui se situe aux alentours de plus 140 000 personnes. Donc là, le solde, il est positif. Mais dans le même temps, des Français ont quitté eux-mêmes le territoire national, sont les expatriés. Ils étaient environ 197 000 lorsque des Français qui vivaient à l'étranger ont eux-mêmes fait le choix de rentrer sur le territoire national. Ils étaient donc pour l'année 2013 environ 77 000. Lorsqu'on fait la différence entre les deux, on obtient donc moins 120 000 personnes. D'accord ? Enfin, on se retrouve également avec des personnes qui étaient nées à l'étranger mais de nationalité française qui eux aussi ont pu entrer ou sortir du territoire. Donc là, on voit que les chiffres sont beaucoup plus faibles. On a 20 000 entrées de ce type de personnes pour l'année 2013, lorsqu'on a 7 000 sorties de ce type de personnes pour l'année 2013, ce qui nous donne un solde net de plus 13 000. Donc en fait, le solde migratoire n'est rien d'autre que la décomposition entre ces trois flux nets. Ce solde migratoire donc était de plus 33 000 personnes pour l'année 2013. Les migrants y ont contribué à hauteur de plus 140 000. Les personnes nées en France à hauteur de moins 120 000 et les personnes nées français à l'étranger à hauteur de plus 13 000. Donc ça nous donne véritablement une décomposition de la contribution de ces trois flux nets à l'évolution démographique. Alors maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est: est-ce que c'est ce solde migratoire qui explique le dynamisme de la démographie française ? Alors, un solde migratoire, donc pour l'année 2014, de plus 60 000 et quelques personnes, reste relativement faible, c'est-à-dire que ça reste environ trois fois inférieur à ce qu'on appelle le solde naturel. Le solde naturel, ce n'est rien d'autre que la différence entre les naissances et les décès, à un instant donné du temps. C'est-à-dire que pour l'année 2014, l'immigration a contribué à hauteur de 30 à 40% à l'évolution de la population française. Le reste de l'accroissement de la population résulte simplement de la différence entre les naissances et les décès. D'accord ? Alors si on prend un horizon temporel un tout petit peu plus long, c'est-à-dire si on regarde ce qui s'est passé au cours des 10 dernières années, l'immigration, grosso modo, a contribué à hauteur de 20% à l'accroissement de la population française, ce qui demeure relativement faible lorsqu'on compare cette statistique par rapport à ce qui s'est passé dans la plupart des États européens, où l'immigration a contribué à hauteur de 60% de l'évolution de la population européenne. Okay ? Alors me direz-vous peut-être que cette faible contribution de l'immigration ou ce fort dynamisme de la démographie française peut s'expliquer par le fait que cette population immigrée a une fécondité beaucoup plus forte que celle que l'on observe, par exemple, s'agissant des femmes autochtones, des femmes françaises. Alors ici, il y a une étude qui a été réalisée par l'INED, en particulier par François Héran et Gilles Pison en 2007, qui cherche à décomposer l'indicateur conjoncturel de fécondité entre ce qui pourrait provenir de la population immigrée et ce qui pourrait provenir de la population autochtone. Alors on constate effectivement, lorsqu'on observe cet indicateur conjoncturel de fécondité, que la population immigrée, en moyenne, a un indicateur sensiblement plus élevé que celui de la population autochtone. Alors, en moyenne en France, cet indicateur conjoncturel de fécondité se situe aux alentours de 1,9 enfants par femme. Celui des femmes immigrées se situe, lui, aux alentours de 2,6 enfants par femme. Si on regarde simplement la différence entre les femmes étrangères et les femmes françaises, l'écart est encore plus important. Femmes étrangères, on est à 3,3 enfants par femme. Femmes françaises, on est à 1,8 enfants par femme. Donc on pourrait se dire que c'est cet écart, ce différentiel entre la fécondité des femmes étrangères et des femmes françaises qui pourrait expliquer pourquoi la fécondité est aussi élevée en France et pourquoi la population française connaît un dynamisme aussi fort comparativement à un certain nombre d'autres pays européens tels que l'Allemagne, l'Espagne ou l'Italie. Alors dans les faits, il n'en est rien. Dans les faits, Héran et Pison montrent que les femmes étrangères ne contribuent que très peu à cette forte fécondité française et ne contribueraient qu'à hauteur d'un dixième d'enfants par femme. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que sans ces femmes étrangères, la fécondité française n'aurait pas été de 1,9 enfants par femme, mais de 1,8 enfants par femme. Alors pour quelles raisons ? Tout simplement parce qu'elles sont trop peu nombreuses, c'est-à-dire qu'elles ne représentent finalement que 7 à 8% du nombre de femmes en âge de fécondité, ce chiffre étant beaucoup trop faible pour expliquer un surcroît de fécondité qui aurait été beaucoup plus important. Alors, venons-en à quelques-unes des caractéristiques de cette population immigrée qui va nous aider à comprendre son impact économique. Alors, première de ces caractéristiques, c'est la répartition par âge. Répartition par âge qu'on peut capter par un schéma que vous connaissez tous, qui est la pyramide des âges. Donc cette pyramide des âges, ici, est construite sur la base des données du recensement. Vous avez, vous retrouvez en gris donc la pyramide des âges des femmes et des hommes autochtones. Vous retrouvez en rouge la pyramide des âges des femmes et des hommes immigrés. On constate très clairement que cette pyramide des âges est relativement différente lorsqu'on compare nos deux sous-groupes, nos deux populations. En particulier, on retrouve très peu d'immigrés parmi les moins de 25 ans. Donc ces immigrés parmi les moins de 25 ans représentent à peu près 13% du total des personnes, à comparer à 31% lorsqu'on prend l'ensemble de la population française. Donc ils sont clairement sous-représentés parmi les jeunes, ce qui est relativement logique. Le fait d'être immigré implique qu'en règle générale, on migre lorsqu'on atteint l'âge adulte. Donc le nombre de personnes jeunes qui migrent, de ce fait, est relativement faible. Ensuite, par contre, on a une surreprésentation de ces immigrés parmi les catégories d'âge actives. Alors parmi les actifs, ils représentent à peu près 55% du total, alors que si on prend la population totale, cette statistique de la classe d'âge de la catégorie des actifs, c'est à peu près 40%. Donc il apparaît très clairement qu'on a une surreprésentation de cette population dans les classes d'âge actives, et on va voir que c'est l'une des raisons qui va expliquer beaucoup des effets qu'on obtient lorsqu'on cherche à mesurer l'impact économique de l'immigration, et en particulier son impact sur les finances publiques. Deuxième chose qui peut nous intéresser au regard de cette structure par âge, ben naturellement cette pyramide des âges, cette caractéristique particulière qui consiste à observer ce regroupement des immigrés dans les catégories d'âge actives, elle tient pour une bonne part à la structure par âge des flux migratoires. L'essentiel de ces flux migratoires, on voit bien apparaître un profil très particulier avec un regroupement des immigrés plutôt parmi les classes d'âge les plus jeunes. Alors si on regarde un petit peu cette décomposition par âge du flux migratoire, on observe que l'âge moyen à la migration se situe aux alentours de 32 ans et on observe que l'on retrouve à peu près 70% des nouveaux entrants qui ont moins de 30 ans. Donc c'est parce que ces migrants sont relativement jeunes lorsqu'ils rentrent en France que l'on se retrouve avec une structure par âge, une pyramide des âges de la population immigrée, aussi différente lorsqu'on la compare à celle de la population autochtone. Alors une autre caractéristique de cette population immigrée tient dans sa répartition par niveau de qualification. Alors les niveaux de qualification ici sont mesurés par les niveaux de diplôme. Alors pour faire simple, j'ai simplement regroupé mes deux catégories de population, les natifs, les immigrés, en fonction de trois grandes catégories de diplômes, ce que j'ai appelé les faiblement qualifiés, c'est-à-dire tous ceux qui disposent d'un niveau de diplôme inférieur au baccalauréat, les moyennement qualifiés, tous ceux qui ont un niveau de diplôme équivalent au baccalauréat jusqu'à un niveau de diplôme Bac plus 2, les hautement qualifiés, qui sont tous ceux qui ont un niveau de diplôme supérieur à Bac plus 2. Ça me donne trois catégories de population parmi les natifs, parmi les immigrés. Première chose, lorsqu'on regarde au cours du temps indépendamment de l'origine, on observe qu'un progrès, on va dire, dans la structure des diplômes, c'est-à-dire que le poids des faiblement qualifiés tend à diminuer indépendamment de l'origine. On le voit bien dans nos deux sous-groupes, les natifs, les migrants, lorsque la part des moyennement et des hautement qualifiés, elle, tend plutôt à augmenter. Ensuite, lorsqu'on compare nos deux sous-populations immigrés et natifs en fonction du niveau de diplôme, on observe que certes, parmi les immigrés, le poids des faiblement qualifiés a eu tendance à décroître au fur et à mesure du temps. Donc à peu près 90% de faiblement qualifiés en 79 contre 54% donc au recensement de 2011. Mais on voit que malgré tout, le poids des faiblement qualifiés est supérieur parmi les migrants comparativement à celui qu'on observe parmi la population des natifs. Donc ici, on compare 45% chez les natifs de faiblement qualifiés, 55% chez les migrants. Par contre, lorsqu'on compare de l'autre côté du spectre des qualifications parmi les hautement qualifiés, il apparaît cette fois-ci que le poids des hautement qualifiés est relativement comparable, voire même légèrement supérieur sur les années les plus récentes, lorsqu'on compare population immigrée comparativement aux populations autochtones. Alors cette distinction par niveau de qualification, on la retrouve bien lorsque l'on construit à un instant donné du temps, donc cet instant ici c'est 2011, on prend le recensement de 2011 et on regarde un petit peu le poids des différentes catégories de niveau d'éducation en opérant cette distinction entre population immigrée et population autochtone. Donc ce qui apparaît de manière assez logique, c'est que parmi les générations les plus âgées, le poids des faiblement qualifiés est relativement élevé et que ces faiblement qualifiés occupent une proportion beaucoup plus faible lorsqu'on prend les générations les plus jeunes. Et on voit clairement apparaître que lorsqu'on opère une distinction entre migrants et natifs, les faiblement qualifiés représentent une part plus importante chez les migrants comparativement aux natifs. Par contre, de l'autre côté de l'échelle, parmi les hautement qualifiés, on voit que les choses sont relativement comparables sur les années les plus récentes. Okay, donc on a un peu un panorama général de ce que représente l'immigration, de ce que pourrait être son impact démographique et de ce qui peut la caractériser à la fois en termes de structure par âge et en termes de structure par qualification. Donc on a un peu tous les ingrédients qui vont maintenant nous permettre de comprendre quels peuvent potentiellement être les effets économiques de l'immigration en analysant donc à la fois successivement les effets sur le marché du travail, puis les effets en termes de finances publiques. Alors commençons d'abord par la première question. Est-ce que les immigrés tirent les salaires vers le bas? Première question donc, qui finalement nous amène à nous intéresser à ce débat de l'impact de l'immigration sur le marché du travail. Alors première chose, premier constat qu'on peut faire, cette question n'est pas abordée de la même manière aux États-Unis et en France ou plus généralement en Europe. Dans le cas français, on s'intéresse davantage à l'impact de l'immigration sur le chômage, alors que dans le cas américain, on s'intéresse plus à l'impact de l'immigration en matière de salaire. Pour autant, les méthodologies qui ont été développées et les intuitions qui sont à la base, les mécanismes qui sont à la base de ces méthodologies sont très comparables. C'est-à-dire que ces deux questions, une fois qu'on a compris pourquoi l'immigration aura un impact relativement faible en matière de salaire, va induire des mécanismes assez proches sur pourquoi l'immigration va finalement induire également assez peu d'effets en matière de chômage. Alors d'abord, attachons-nous à comprendre pourquoi les chercheurs ne se sont pas intéressés à la même chose aux États-Unis et en Europe. Alors, deux graphiques qui permettent, je pense, de le comprendre assez clairement. Le graphique de gauche vous donne l'évolution des inégalités de revenus, des inégalités salariales aux États-Unis et en France. Ces inégalités salariales sont mesurées par ce qu'on appelle l'indicateur ou le coefficient de Gini, qui est un indicateur synthétique du degré d'inégalité dans une société. C'est-à-dire qu'un indicateur de Gini égal à zéro vous indique simplement une société parfaitement égalitaire. Tout le monde a le même niveau de revenu. Un indicateur de Gini égal à 1 vous donne une société parfaitement inégalitaire. Un individu dispose de l'intégralité de la richesse de la nation. Naturellement, on retrouve un indicateur qui est compris entre ces deux extrêmes totalement irréalistes. Cet indicateur de Gini nous permet donc de constater que aux États-Unis, les inégalités ont eu tendance à croître au cours du temps, sur la période des 30 ou 40 dernières années, alors que ces inégalités sont restées relativement stables dans le cas français. D'où cette question qui était prioritairement traitée aux États-Unis de l'impact de l'immigration sur les salaires et donc sur les inégalités salariales. Par contre, sur le cas européen et sur le cas français, on constate que l'évolution du taux de chômage a été relativement différente par rapport à ce qu'on a pu constater dans le cas des États-Unis. Donc aux États-Unis, le taux de chômage est resté à des niveaux relativement faibles, lorsqu'en France, il a atteint des niveaux sensiblement plus élevés, c'est-à-dire dépassant les 12% par exemple au milieu des années 90 et plafonnant actuellement un peu au-delà de 10%, lorsque le taux de chômage américain se situe plutôt aux alentours de 4,5 à 5%. Okay ? Donc ça explique un petit peu pourquoi ces chercheurs ne se sont pas intéressés tout à fait à la même chose aux États-Unis et en Europe et en France. Alors dans le cas américain, on a connu une rupture importante de la politique migratoire américaine qui a expliqué pourquoi nombre d'économistes se sont lancés justement sur cette quantification de l'impact de l'immigration en matière de salaire, en termes d'inégalité salariale. Cette rupture est intervenue au milieu des années 60, donc en 1965, on a eu un changement brutal de la politique d'immigration américaine, on a mis fin à ce qu'on a appelé la politique des quotas. Cette politique des quotas qui était appliquée avant cet amendement de 1965 consistait simplement à appliquer des quotas par origine sur les flux migratoires. Ces quotas par origine étaient simplement calqués sur les origines telles qu'ils étaient constatées au début du XXe siècle aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on avait une reproduction dans les flux migratoires des origines telles qu'ils étaient constatées au début du siècle dernier. Rupture, remise en cause de cette politique des quotas, qui a eu des conséquences assez fortes. Alors ces conséquences, naturellement, se sont traduites par une modification des flux migratoires par origine. Par exemple, en 1990, il y avait donc 7% d'Européens de l'Ouest contre 47% d'Européens de l'Ouest lorsqu'on prend les flux migratoires du début des années 60. Inversement, 37% d'Asiatiques en 1990 contre 7% dans les flux migratoires tels que constatés en 1960. Donc une modification très forte sur les origines qui a eu pour conséquence une modification sur le niveau de qualification des migrants. Un décrochage très fort en termes de niveau de qualification des populations immigrées que l'on constate très clairement lorsque l'on reprend un petit peu ma structure des diplômes. Pareil, c'est le même graphique. Natif, immigré, faiblement, moyennement, hautement qualifié. lorsqu'on compare la part des faiblement qualifiés, dans les deux cas, on a une réduction de cette part des faiblement qualifiés au cours du temps, mais on voit qu'on a un décrochage très fort lorsqu'on compare les populations des natifs avec les populations des immigrés. C'est-à-dire que à la fin des années 90, les faiblement qualifiés ne représentent que 10% du total des natifs, lorsque ces mêmes faiblement qualifiés représentent pas loin de 35% chez les immigrés. Donc c'est ce décrochage en termes de niveau de qualification qui a finalement mis sur le devant de la scène cette question de l'immigration et de l'impact potentiel que peut avoir l'immigration en termes d'inégalité de salaire. C'est-à-dire que les hommes politiques se sont emparés de cette question et ont trouvé un espèce de coupable idéal. S'il y a plus d'inégalités aux États-Unis, c'est peut-être parce que ces migrants sont trop faiblement qualifiés et entrent en compétition avec les natifs les plus faiblement qualifiés. Donc c'est de là un petit peu que sont venus les premiers travaux économiques portant sur cette question des inégalités salariales et de l'impact de l'immigration en termes d'inégalités salariales. Alors, qu'ont à dire les économistes en la matière ? Alors d'abord, on peut proposer une représentation très simple du fonctionnement du marché du travail. C'est un peu ce qu'on enseigne à nos étudiants de première année. On représente le marché du travail comme un marché, comme pourrait être le marché de la tomate ou le marché des voitures. L'idée étant de représenter une offre de travail et une demande de travail. On considère que la demande de travail est décroissante du niveau de salaire, c'est-à-dire que les employeurs auront tendance à embaucher d'autant plus que le coût du travail est faible. Dans le cas contraire, ils opéreront une substitution du travail au capital. Okay. L'offre de travail, par contre, ici on va considérer qu'elle est relativement inélastique, j'entends par là qu'elle est relativement invariante du niveau de salaire. Une offre, une demande, un équilibre du marché du travail qui se fixe simplement à la rencontre de l'offre et de la demande. Cet équilibre s'opère simplement pour un certain niveau du salaire d'équilibre, aboutissant donc à une égalisation de la quantité demandée et offerte de travail. Donc c'est un petit peu notre point de départ. Par rapport à cela, l'immigration peut être vue comme un choc d'offres positif. C'est-à-dire, sur mon graphique, un déplacement vers la droite de l'offre de travail. Il y a plus de travailleurs qui rentrent sur le marché du travail. Quel est l'effet auquel on peut s'attendre de ce choc d'offres positif ? Toute chose étant égale par ailleurs, c'est-à-dire si on considère uniquement ce choc, alors on s'attend à une diminution du salaire sur ce marché du travail, si tant est que les salaires s'ajustent parfaitement. C'est-à-dire que plus de travailleurs fera que cela va conduire à une diminution du salaire tel qu'observé sur le marché du travail. D'accord ? Donc finalement, on pourrait se dire, à l'aide de ce modèle assez simple, que les hommes politiques américains ne se sont pas totalement trompés en désignant l'immigration comme étant l'une des causes principales de l'accroissement des inégalités salariales aux États-Unis. D'accord ? Alors bien évidemment, ce modèle est bien trop simple et la réalité est beaucoup plus complexe. Alors d'abord, parce que le salaire ne s'ajuste pas parfaitement sur le marché du travail. C'est-à-dire qu'il existe certaines formes de rigidité salariale. Cette rigidité salariale, ça peut être quoi ? Ça peut être l'existence d'un salaire minimum. Ça peut être le rôle joué par exemple par les syndicats qui font que, contrairement à ce qu'enseignent les théories économiques de base, le salaire n'est pas parfaitement flexible. Alors me direz-vous, si le salaire ne s'ajuste pas parfaitement, l'ajustement va s'opérer par l'emploi. C'est-à-dire plus d'immigrés va entraîner probablement plus de chômage. On verra et on répondra à cette deuxième question un petit peu plus tard. Mais on voit bien que la question de savoir est-ce que l'immigration impacte plutôt les salaires ou impacte plutôt l'emploi, c'est-à-dire le taux de chômage, va d'une certaine manière dépendre du degré de flexibilité du marché du travail. Plus le marché du travail est flexible et plus on s'attend à ce que l'impact de l'immigration joue plutôt sur les ajustements salariaux. Plus ce marché du travail est rigide et plus on s'attend à ce que l'impact se fasse plutôt en matière d'emploi, de chômage. Alors là où le modèle est beaucoup trop simple, c'est qu'il s'agit d'un modèle d'équilibre partiel. On a considéré uniquement un seul choc, un choc d'offre, une augmentation de l'offre sur le marché du travail. Or, l'immigration induit ce qu'on appelle des effets d'équilibre général. Ces effets d'équilibre général, c'est quoi ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire simplement que l'ensemble de l'économie est affecté par ce choc migratoire, et pas uniquement le marché du travail. Ça veut dire quoi ? Pour prendre deux exemples concrets, ça veut dire par exemple que les entreprises peuvent se mettre à investir davantage du fait de cet afflux de main-d'œuvre qui, dans le cas des États-Unis, était plutôt une main-d'œuvre bon marché, puisque faiblement qualifiée. Ça veut dire également que ce supplément d'immigration induit également un surcroît de consommation. C'est-à-dire qu'on a à la fois simultanément un choc d'offres, plus de travailleurs sur le marché du travail, mais aussi un choc de demande. Ce choc de demande consistant simplement à considérer qu'on va avoir un accroissement de la demande en biens et services, donc une augmentation de la demande des biens des entreprises, donc une augmentation d'une certaine manière de l'emploi. Ça veut dire que le vrai modèle qu'on devrait avoir en tête consiste à la fois à considérer qu'on va avoir un déplacement de l'offre de travail tel que je l'ai considéré initialement, mais également un déplacement de la demande de travail. Et on voit bien qu'en fonction du déplacement qui sera opéré sur cette demande du travail, on peut à la fois avoir une diminution du salaire, avoir aucun effet sur les salaires, ou avoir une augmentation des salaires qui résulterait de ce choc migratoire positif. Donc tout va dépendre de l'ampleur relative de ces deux effets, augmentation de l'offre et simultanément une augmentation de la demande de travail. Et c'est précisément ce que vont chercher à mesurer les économistes. Quel est, concrètement, lequel de ces deux effets l'emporte sur l'autre? Et on va voir que, finalement, les effets sont relativement nuancés en la matière. Alors, dernière chose également qu'on peut avoir en tête, les travailleurs sont hétérogènes. C'est-à-dire qu'on n'a pas un seul marché du travail, on a une multitude de marchés du travail, en fonction des niveaux de compétences, en fonction des niveaux de qualification, en fonction des secteurs que l'on peut considérer. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il est assez difficile de dire que l'immigration va avoir un impact positif ou négatif globalement. On peut avoir des effets redistributifs en fonction des différentes catégories de population considérées. Le mécanisme économique que l'on peut avoir en tête, c'est que les travailleurs qui vont ressortir perdants du choc migratoire sont les travailleurs qui vont plutôt se retrouver en situation de concurrence avec les migrants, c'est-à-dire ceux pour lesquels on va considérer une certaine forme de substituabilité, alors que les travailleurs qui pourront ressortir gagnants de ce choc migratoire sont plutôt les travailleurs qui seront complémentaires de ces migrants. Par exemple, vous faites entrer des migrants faiblement qualifiés. Ceux qui subiront probablement les conséquences de l'immigration seront les autochtones faiblement qualifiés, alors que les natifs hautement qualifiés ressortiront plutôt gagnants de ce choc migratoire. Pourquoi ? Du fait d'une raréfaction de ce facteur de travail. Un facteur de travail rare amène une rémunération plus importante. Un facteur de travail abondant amène plutôt à une diminution de la rémunération. D'accord ? Alors les économistes, une fois qu'on a les mécanismes et le modèle économique en tête, ont cherché à mesurer précisément l'impact de l'immigration en termes salariales. Alors la première étude date du début des années 80 et la littérature a proposé trois types d'approches principales. On a ce qu'on appelle les approches par corrélation spatiale, les approches dites par proportion de facteurs et les approches marché du travail national. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail de chacune des approches, mais simplement donner un petit peu les principaux messages et les principaux ordres de grandeur qui résultent de chacune de ces trois formes d'approche. Et vous verrez que le message, il est globalement assez convergent. Alors d'abord, les approches de type corrélation spatiale aboutissent à ce qu'on appelle l'estimation d'une élasticité. Une élasticité, c'est quoi ? Ça mesure simplement de combien va varier en pourcentage le salaire suite à une augmentation, par exemple, de 1% du nombre d'immigrés sur le marché du travail, sur un marché du travail donné. D'accord ? Vous avez ici un tableau qui vous donne un résumé un petit peu des principales élasticités qui ont été estimées. Si vous avez un signe positif, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que plus d'immigration induit une augmentation des salaires en moyenne. Si vous avez un signe négatif, vous avez l'effet inverse. Donc on voit que lorsqu'on compare un petit peu les différentes études, en règle générale, on retrouve plutôt des élasticités négatives. Ce qui est important de voir maintenant, c'est la valeur de ces élasticités. Et ces élasticités, qui mesurent finalement l'impact de l'immigration sur le marché du travail, induisent des niveaux, des conséquences relativement faibles en termes d'ajustements salariaux. Alors pour bien fixer les choses et pour prendre quelques ordres de grandeur, ces élasticités, par exemple, dans le cas des États-Unis, varient de moins 0,01 à moins 1,2. Dans le cas de l'Europe, elles varient de moins 0,01 à moins 0,11. Mettons des chiffres, mettons des salaires, voir un petit peu ce que ça induit en termes de modification pour bien comprendre que l'effet il est relativement modéré. Alors par exemple, si on prend le cas de la France et si on retient une élasticité de 0,6, c'est-à-dire la médiane des élasticités trouvées dans le cas des pays européens, ça implique qu'une augmentation de 1% de la population active, par exemple en Île-de-France, c'est-à-dire un choc qui est loin d'être négligeable, plus 64 000 personnes qui rentrent sur ce marché du travail particulier. Rappelez-vous, hein, en France, entre chaque année 200 000 personnes, là on suppose un choc fort, plus 64 000 migrants qui rentrent sur le marché du travail d'Île-de-France. Quel est l'impact au regard de l'élasticité trouvée dans la littérature? Ça réduit grosso modo le salaire mensuel moyen dans cette région d'environ 17 euros. Donc on voit que l'effet demeure et reste relativement faible. Alors quelles sont les limites un petit peu de ces approches de type corrélation spatiale? Les limites, c'est qu'on va en fait comparer un marché du travail donné, un marché du travail sur lequel on a une forte présence migratoire, on va comparer ça avec d'autres zones géographiques dans lesquelles il y aurait relativement peu de migrants, et on va choisir ces autres zones géographiques comme étant relativement proches par leurs caractéristiques de la zone géographique que l'on veut étudier. Le problème qui se pose, c'est que naturellement, les migrants peuvent bouger d'une zone à l'autre. Donc ces migrants sont mobiles, les facteurs de production sont mobiles, ce qui fait que ça peut venir limiter ce qu'on va finalement chercher à mesurer, et ça va diffuser cet effet sur l'ensemble de l'économie en question. Okay ? Donc deuxième forme d'approche, ce sont les approches dites par proportion de facteurs. Les approches par proportion de facteurs, qu'est-ce que c'est? On va simplement chercher à mesurer l'impact d'une modification de la taille relative, par exemple, du nombre de hautement qualifiés par rapport au nombre de faiblement qualifiés, sur la modification du salaire des hautement qualifiés relativement aux faiblement qualifiés. D'accord? Donc on va essayer de mesurer la relation qui peut exister entre ces deux phénomènes. Ces approches, donc menées pour l'essentiel aux États-Unis, conduisent à des effets beaucoup plus forts. En particulier, si on en croit les travaux qui ont été menés par exemple par Borjas à la fin des années 90, selon lui, environ 40% de l'accroissement des inégalités salariales pourrait être le fait du phénomène migratoire. Une autre approche, un résultat relativement différent. Pareil, cette deuxième approche a des limites assez fortes. Ces limites consistent simplement à mesurer le lien qui existe entre la taille relative, le nombre relatif de qualifiés et de faiblement qualifiés et l'impact que la modification de cette taille peut avoir sur les inégalités salariales en induisant l'ensemble de cet impact comme étant le seul fait de la population immigrée. Or, la variation du nombre de hautement qualifiés relativement au nombre de faiblement qualifiés peut également provenir de tout un tas d'autres phénomènes. L'immigration n'est pas la seule cause de cette modification du rapport entre les hautement et les faiblement qualifiés. Donc naturellement, ça tend à grossir assez fortement le trait lorsqu'on utilise ce genre d'approche. Troisième forme d'approche, les approches les plus récentes sont les approches qui découlent à nouveau des travaux de Borjas à la fin des années 2000. Donc à nouveau, on va utiliser une approche du marché du travail national. On va à nouveau adopter une approche qu'on qualifiera d'approche en équilibre partiel, se basant sur ce qu'on appelle des fonctions de production. Alors l'idée ici consiste simplement à se dire que sur un marché du travail, les travailleurs sont substituables, que les jeunes sont plus ou moins substituables aux vieux, que les qualifiés sont plus ou moins substituables aux faiblement qualifiés, et qu'éventuellement les migrants sont plus ou moins substituables aux natifs. C'est-à-dire qu'on va chercher à mesurer la substituabilité entre travailleurs en comparant cette substituabilité en fonction de l'expérience, c'est-à-dire en fonction de l'âge, en fonction du niveau de qualification et en fonction du lieu de naissance, de l'origine. Alors, quels sont les résultats qui sont obtenus par ce type d'approche ? À nouveau, il y a un débat, relativement fort, notamment entre Georges Borjas et entre un certain nombre d'auteurs, dont Ottaviano et Perry, qui ne trouvent pas exactement les mêmes effets. Alors, si on prend par exemple les résultats de Georges Borjas au début des années 2000, les élasticités qui découlent de ces travaux tendent à montrer que un choc migratoire, par exemple, de l'ordre de 10%, tel que celui qu'on a pu observer, donc c'était entre 1980 et 2000 dans le cas des États-Unis, conduit en moyenne à une diminution du salaire de l'ensemble des travailleurs américains de l'ordre de 3%. Alors cet effet est plus important que celui qu'on trouvait dans les approches de type corrélation spatiale, mais reste malgré tout relativement modéré. Par contre, ce que montre Georges Borjas dans ses travaux, c'est que les effets sont beaucoup plus forts lorsqu'on observe simplement l'impact qu'a pu avoir ce choc migratoire en matière de salaire chez les plus faiblement qualifiés. Par contre, les travaux qui ont été menés par Ottaviano et Perry, pareil, sur données américaines, donc sur des données relativement comparables, aboutissent à des résultats un tout petit peu différents. La différence tient simplement dans le fait que Ottaviano et Perry vont considérer que pour un âge donné et un niveau de qualification donné, migrants et autochtones ne sont pas forcément totalement substituables. Chose que ne faisait pas Georges Borjas. Quelle est la conclusion à laquelle arrivent ces travaux ? Ben, cette conclusion, elle est assez simple. Elle consiste simplement à se dire que les personnes qui vont le plus perdre d'un choc migratoire sur le marché du travail, ce sont les migrants eux-mêmes. C'est-à-dire les migrants qui étaient antérieurement présents sur ce marché du travail sont ceux qui vont le plus subir les conséquences d'un afflux nouveau d'immigrants sur le marché du travail. On en revient à ma question de la complémentarité ou de ma substituabilité entre les différentes formes de travail sur le marché du travail. Ce sont les travailleurs les plus substituables qui vont subir le plus fortement les conséquences en matière salariale, c'est-à-dire les migrants qui sont concurrencés par de nouvelles vagues migratoires. Alors, venons-en maintenant à la question de l'impact de l'immigration sur l'emploi, c'est-à-dire ce qui caractérise davantage le marché du travail français. Alors en la matière, les migrants sont souvent affublés d'une double image un petit peu antagonique. Cette double image revient d'abord à faire une confusion. C'est-à-dire, lorsqu'on regardait un petit peu les statistiques migratoires tout à l'heure, on se disait que sur 200 000 personnes qui rentrent chaque année en France, il y a à peu près 20 000 personnes qui le font pour un motif lié au travail. C'est-à-dire à peu près 10% du flux migratoire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que 10% des migrants qui travaillent. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que 10% des nouveaux migrants qui rentrent chaque année en France, qui participent au marché du travail, puisque l'on peut participer au marché du travail et entrer en France pour tout un tas d'autres raisons. Alors, première chose, lorsqu'on regarde un petit peu le taux d'emploi, ce taux d'emploi est relativement comparable lorsqu'on compare ce taux d'emploi chez les migrants relativement à celui des autochtones. Il se situe grosso modo aux alentours de 42%. Alors ensuite, deuxième chose, on entend souvent dire, et là je reprends un petit peu le slogan qui a été utilisé pendant de très nombreuses années par le Front National, que en gros, si on a 2 millions de chômeurs, c'est 2 millions d'immigrés en trop. Si on a 3 millions de chômeurs, c'est 3 millions d'immigrés en trop. Okay ? Donc on voit à quel point on a un message assez antagonique entre d'une part une première vision qui consiste à dire que les migrants ne travaillent pas et une deuxième vision qui consiste à dire que les migrants finalement prennent l'emploi des Français sur ce marché du travail. Alors essayons de faire un petit peu la part des choses entre ces deux visions. Alors d'abord, on peut constater que les immigrés sont assez surreprésentés dans la population active. Cette surreprésentation, elle découle simplement des caractéristiques en matière d'âge, telles qu'on a pu les mettre en évidence lorsqu'on observait un petit peu notre pyramide des âges. C'est-à-dire que ces migrants représentent un peu plus de 9% de la population active lorsque leur poids dans la population totale se situe aux alentours de 8,5%. D'accord ? Donc ils sont davantage présents parmi les individus en âge d'activité. Ensuite, en matière de taux d'activité, les taux d'activité des migrants sont relativement proches de ceux des autochtones, même si on constate des différences assez fortes en fonction des origines. On constate ensuite que ces migrants sont très nettement plus vulnérables au chômage, même si à nouveau on a une très forte hétérogénéité. C'est-à-dire que lorsqu'on compare le taux de chômage moyen en France avec celui des seuls migrants, on a grosso modo un rapport de 1 à 2. La probabilité d'être au chômage parmi les migrants est grosso modo deux fois supérieure à ce qu'on constate dans la population totale. Enfin, on a une certaine forme de précarité par rapport à l'emploi, les migrants étant beaucoup plus représentés dans les contrats précaires de type contrat à durée déterminée, 15% relativement à environ 9% parmi les autochtones. Donc ça donne quelques éléments pour bien comprendre quelle est la situation des migrants sur le marché du travail en France. Alors, venons-en très rapidement à l'analyse statistique pour nous aider à comprendre si oui ou non, le fait d'avoir plus d'immigrés sur un marché du travail induit fondamentalement d'avoir des taux de chômage plus élevés. Alors premièrement, ce qu'on peut faire, c'est mettre en relation ces deux variables. Donc sur ce graphique, qu'est-ce qui est fait ? Donc pour l'ensemble des pays de l'OCDE, vous avez en bas la part des actifs nés à l'étranger dans la population active, okay, donc le pourcentage d'étrangers dans la population des actifs. Vous avez en ordonnée le taux de chômage tel qu'il est constaté dans la population des pays considérés. Chaque point représente un pays, c'est-à-dire un couple entre le nombre, la part des immigrants dans la population active et le pourcentage, le taux de chômage dans le pays en question. On a un nuage de points. Dans ce nuage de points, on peut faire passer ce qu'on appelle une droite de régression. Cette droite de régression nous donnant finalement le lien statistique, la corrélation qui existe entre ces deux variables. Si la corrélation était positive, la droite serait croissante, c'est-à-dire plus d'immigrés induiraient des taux de chômage les plus élevés. Qu'est-ce qui ressort de cette analyse statistique ? Ben, il ressort que finalement, le message il est loin d'être aussi clair. C'est-à-dire que les pays qui ont un taux d'immigration, une part d'immigrés élevée dans leur population active, sont également, en règle générale, les pays qui ont les taux de chômage les plus faibles. Même si vous voyez bien qu'on a quelque chose de quasiment stable, c'est-à-dire que le lien il est relativement faible entre les deux variables. Alors me direz-vous, ce qui est peut-être important de mesurer, c'est pas tant de mettre en relation le poids, la part de l'immigration dans la population active relativement au taux de chômage, mais la variation du nombre de migrants dans la population active relativement à la variation du taux de chômage. C'est-à-dire, à un moment donné, si on a un flux migratoire conséquent sur le marché du travail, peut-être qu'alors on va constater un accroissement significatif du taux de chômage. C'est mon deuxième graphique. Donc deuxième graphique, les mêmes pays. En bas, vous avez la variation de la part des immigrés dans la population. En ordonnée, vous avez la variation du taux de chômage. À nouveau, chaque point représente un pays. À nouveau, vous avez une droite de régression qui vous donne la tendance de votre nuage de points. À nouveau, vous voyez que vous n'avez pas de lien fort entre chacune des deux variables. Les pays qui, sur la période la plus récente, c'est-à-dire entre 2007 et 2012, ont connu l'augmentation la plus forte du nombre de migrants dans leur population active, ne sont pas les pays qui, en parallèle, ont connu une variation positive de leur taux de chômage. D'accord ? Alors, j'en arrive à la conclusion que, en la matière, il faut oublier ce qu'on pourrait qualifier de vision malthusienne du marché du travail. Vision malthusienne qui consisterait à se dire que le marché du travail serait comme un espèce de grand gâteau à taille fixe, dont on se partagerait les parts en parts de plus en plus petites au fur et à mesure que l'on est nombreux à manger de ce gâteau. Donc le marché du travail est un gâteau finalement qui est à géométrie variable, un gâteau dont la taille va augmenter ou diminuer en fonction du nombre de personnes qui participent à ce marché du travail. Alors c'est ce que révèle à nouveau la plupart des études économiques en la matière. C'est-à-dire, à nouveau, vous avez un tableau de synthèse qui vous donne les élasticités, c'est-à-dire les liens qui existent entre la variation des taux de chômage et la variation de la part des migrants présents sur le marché du travail. À nouveau, on se retrouve avec des élasticités estimées qui prennent des valeurs extrêmement faibles. C'est-à-dire, plus d'immigrés sur le marché du travail induit de très faibles variations du taux de chômage, que ces variations soient positives ou négatives. on a deux phénomènes qui sont relativement découplés à nouveau. On retrouve exactement les résultats que ce que l'on avait obtenu en matière d'évolution salariale et d'inégalité salariale. Alors on a quelques expériences célèbres qui vont dans ce sens-là. On a notamment les travaux de Card au début des années 90 qui a cherché à mesurer l'arrivée en Floride de Cubains. Donc c'était au début des années 80. On a l'expérience qui avait été menée par Jennifer Hunt qui consistait à mesurer l'impact des rapatriés d'Algérie. 900 000 personnes qui, en très peu de temps, sont entrées donc, dans les régions périphériques à la Méditerranée. Expérience également de Rachel Friedberg, qui a cherché à mesurer l'impact du retour en Israël d'environ 1 million de Juifs qui étaient initialement installés en Union soviétique. Alors, 1 million de personnes à l'échelle du marché du travail israélien, ça représente un impact extrêmement fort. Ça représente un impact équivalent à plus 7 millions de personnes en France. Donc rappelez-vous, à rapporter par rapport à un flux migratoire de 200 000 personnes par an. Donc vous imaginez l'ampleur du choc migratoire et l'impact que cela peut avoir sur le marché du travail. Dans les trois cas, quelle est la conclusion? On ne va pas détailler à chaque fois les résultats pour pouvoir se laisser un peu de temps à la fois pour la discussion et pour traiter du coût de l'immigration sur les finances publiques. À chaque fois, quelle est la conclusion qui découle de ce type d'approche? C'est que très rapidement, les marchés du travail, aux États-Unis, en France ou en Israël, ont absorbé ce supplément d'immigration relativement rapidement. C'est-à-dire au bout de quelques mois ou de quelques années, on ne constate plus aucun impact, que cet impact soit mesuré en matière salariale ou en matière de chômage. Donc les résultats en la matière sont relativement convergents. Alors venons-en à la dernière question que je souhaitais aborder, qui est celle de l'impact potentiel que l'immigration peut avoir en matière de finances publiques. Alors à nouveau, c'est une question qu'on retrouve assez largement dans le débat politique. Par exemple, Marine Le Pen, dans son programme de 2012, proposait de réduire de 200 000 personnes qui rentreraient chaque année en France à 10 000 le flux d'entrée annuel et avait chiffré donc l'économie réalisée aux alentours de 40 milliards d'euros. Alors 40 milliards d'euros, pour bien situer les choses, c'est à peu près la moitié du déficit budgétaire français. C'est-à-dire qu'en gros, on réglerait la moitié du problème du déficit simplement en fermant nos frontières. Okay ? Alors, quel est le mécanisme que l'on peut avoir en tête pour se dire que l'impact de l'immigration en matière de finances publiques peut être aussi élevé? Le mécanisme, il est assez simple, et on l'a un petit peu abordé lorsqu'on a présenté les statistiques migratoires. Les immigrés sont en moyenne moins qualifiés. Donc s'ils sont moins qualifiés, ils sont davantage sur des niveaux sur des emplois peu qualifiés, donc à faible niveau de salaire. S'ils sont sur des emplois à faible niveau de salaire, ça veut dire qu'ils payent relativement moins d'impôts, relativement moins de charges sociales. On a vu également que les immigrés avaient une probabilité d'être au chômage plus forte, le rapport étant variant de 1 à 2. Et on a vu également que les immigrés faisaient davantage d'enfants, avaient une fécondité plus élevée. Donc on voit bien que ces trois phénomènes, moins qualifiés, plus au chômage, fécondité plus forte, tente à penser que le coût en matière de finances publiques et de protection sociale en particulier pourrait être relativement élevé. Alors qu'en est-il? Premier tableau qui exploite un petit peu les données de l'INSEE en matière de revenus disponibles nous donne quel est le revenu disponible relatif des migrants relativement à la moyenne nationale. Donc on constate qu'effectivement, pour l'année 2009, ce revenu disponible parmi les ménages immigrés était plus faible, 26 000 et quelques euros annuels, à mettre en relation avec la moyenne des autres ménages, 35 000 euros annuels. Donc un résultat qui va dans le sens des éléments caractéristiques de cette population immigrée. Ensuite, le tableau est intéressant en ce sens qu'il permet une décomposition de ce revenu moyen en fonction des différentes sources de ce revenu. Revenu salarial, perception d'allocation chômage, revenu d'indépendant, pension de retraite, revenu du patrimoine, prestations sociales par exemple. Si on prend les prestations sociales, parmi les immigrés, ces prestations sociales représentent à peu près en moyenne 15% du revenu des immigrés. Si on prend les autres ménages, les ménages autres que les ménages immigrés, ces prestations sociales représentent 4%, 4,4% du revenu de ces ménages, c'est-à-dire 3 fois moins en proportion. Donc ça va toujours dans le sens des effets que j'ai mis en évidence, selon lesquels l'immigration serait surreprésentée dans les différents dispositifs sociaux. Par contre, et on verra que c'est important, si on prend le poids des pensions de retraite dans les ménages dans le revenu des ménages immigrés ou dans le revenu des autres ménages, on voit que ces pensions de retraite représentent en moyenne 18% du total des revenus chez les immigrés, alors que ces pensions de retraite représentent un peu plus de 25% s'agissant des autres ménages. Donc cette fois-ci, ils sont moins représentés. Ok ? Alors maintenant, on peut utiliser un petit peu plus en détail les statistiques disponibles pour vérifier ou non dans quelle mesure cette population immigrée est surreprésentée dans un certain nombre de risques sociaux. Alors, les statistiques qui sont offertes aux chercheurs sont notamment l'enquête budget des familles, qui est une enquête qui est menée régulièrement par l'INSEE depuis le milieu des années 70, qui est une enquête qui finalement reconstruit pour un certain nombre de ménages représentatifs l'ensemble de leur comptabilité, c'est-à-dire l'ensemble de leurs ressources et l'ensemble de leurs dépenses. Donc on a une matière ici qui est particulièrement utile pour le chercheur et pour le statisticien. Alors, dans cette enquête, on a un échantillon représentatif de la population française et on travaille sur un échantillon qui est quand même relativement large, c'est-à-dire à peu près 30 000 personnes sur chacune des vagues d'enquête. Okay. Si on prend l'enquête de 2005 et si on regarde un petit peu quels sont les taux de recours en matière de protection sociale de la population immigrée relativement à la population autochtone, on constate d'abord que les immigrés en provenance d'un autre pays de l'Union européenne ont un taux de recours à la protection sociale qui est relativement proche des natifs. Il n'y a pas de différence lorsqu'on prend les migrants d'un autre pays européen relativement aux autochtones. Par contre, si on observe spécifiquement les immigrés extra-communautaires, on constate que ces immigrés étaient, dans l'enquête de 2005-2006, 3,8 fois plus représentés parmi les bénéficiaires des aides sociales et en particulier du RMI, étaient 1,6 fois plus représentés parmi ceux qui recevaient les allocations de chômage et étaient 1,1 fois plus représentés, par exemple, parmi ceux qui avaient recours aux aides à la famille. D'accord ? Donc on retrouve bien cette surreprésentation de la population immigrée dans un certain nombre des dispositifs sociaux. La question maintenant qu'on peut se poser, c'est est-ce que cette surreprésentation dans ces différents dispositifs sociaux induit forcément un coût très important en matière de finances publiques ? Et on va voir que les choses sont beaucoup moins évidentes qu'il n'y paraît. Alors, les résultats que je vous présente ici découlent d'un travail que je suis en train de finaliser avec deux de mes co-auteurs, qui consiste finalement à chercher à mesurer cet impact budgétaire de l'immigration depuis 30 ans, c'est-à-dire depuis la fin des années 70, essayer de reconstruire à différents moments du temps quelle est la contribution de l'immigration aux finances publiques. Est-ce que cette contribution est positive et négative ? Est-ce que l'impact de cette immigration, il est fortement ou faiblement négatif. D'accord ? Alors, la méthodologie est assez simple, contrairement à ce que pourraient laisser à penser ces équations savantes. La méthodologie est très simple, elle consiste simplement à repartir de ce qu'on appelle le solde primaire. Le solde primaire, c'est quoi ? C'est simplement le solde ou le déficit de l'État hors charge d'intérêt sur la dette. C'est-à-dire la différence entre les recettes, le total des recettes et des dépenses de l'État, en dehors des charges d'intérêt sur la dette. Qu'est-ce qu'on fait de manière concrète ? On prend le total des recettes de l'État que l'on va venir désagréger en fonction des différentes sources de recettes. Quelles sont ces différentes sources de recettes ? Impôt sur le revenu du travail, impôt sur les revenus du capital, TVA, impôt sur la propriété, cotisations sociales, CSG, CRDS. Voici donc les principales formes de prélèvement public. Pour chaque forme de prélèvement public, les enquêtes, et en particulier les enquêtes budget des familles, me permettent de reconstruire quelle est la contribution des migrants, quelle est la contribution des natifs au total de chacune de ces recettes. C'est-à-dire qu'on est capable de dire est-ce que combien un migrant, pour une année donnée, a en moyenne contribué en matière de TVA, en matière d'impôt sur le revenu, etc., etc. On le fait donc pour l'ensemble des recettes publiques, on le fait également pour l'ensemble des dépenses publiques, c'est-à-dire santé, retraite, famille, chômage, logement, assistance, éducation, donc les grandes branches finalement de la protection sociale, que l'on va également désagréger selon la contribution des migrants et la contribution des natifs aux finances publiques. D'accord ? Donc on va utiliser ces données de la comptabilité nationale, c'est-à-dire ces données globales, que l'on va venir croiser avec les données d'enquête qui nous donnent une évaluation moyenne de la contribution des migrants et des natifs. Alors qu'est-ce que ça donne ? On va construire ce qu'on appelle des profils par âge. Des profils par âge, ça vous donne simplement la contribution à un âge donné que l'on va distinguer pour notre population des immigrés et notre population des autochtones. Par exemple, ici, je vous donne pour un certain nombre d'années ce que pourrait être ce profil par âge des cotisations sociales. On voit bien qu'on ne paye pas de cotisations sociales avant 17 ans, grosso modo. On ne paye pas de cotisations sociales après 60-65 ans. Donc l'essentiel de ces cotisations sociales se regroupe lorsque l'on participe au marché du travail. On a une valeur moyenne en fonction de l'âge et en fonction de nos deux origines, migrants, natifs. On fait ça pour l'ensemble des taxes. On agrège, on a la contribution moyenne des migrants et des natifs pour l'ensemble des taxes payées à l'État. Qu'est-ce qu'on met en évidence ? On met en évidence que quel que soit l'âge et quelle que soit l'année, donc on le fait de 1979 à 2011, les migrants ont toujours une contribution aux finances publiques, aux recettes publiques, qui est inférieure à celle des natifs. Cette contribution, elle est inférieure de l'ordre de 20% à celle des natifs. Comment on l'explique ? Essentiellement parce que les migrants sont plutôt faiblement qualifiés. C'est surtout ça la raison. Okay. Ensuite, on fait la même chose en matière de dépenses. Pour chacune des formes de dépenses publiques, on va calculer quelle est la contribution moyenne par âge des migrants et des natifs. Pareil, on agrège le tout. On obtient en rouge le total, la ventilation par âge des dépenses totales moyennes payées par un individu représentatif, un migrant représentatif, un natif représentatif. Cette fois-ci, on voit qu'en matière de dépenses, les différences sont beaucoup moins flagrantes, sauf au moment de la retraite, où là, on observe que les migrants perçoivent des dépenses en moyenne plus faibles que celles des natifs. Ce qui n'est pas surprenant, les pensions d'aujourd'hui étant calculées en fonction des salaires d'hier. Donc si les migrants avaient une situation dégradée sur le marché du travail, naturellement, ça se traduit par une situation dégradée en matière de retraite. Les choses sont parfaitement logiques. Ensuite, ce qui nous intéresse, c'est la différence entre les deux. Différence entre le total des taxes payées par mon individu représentatif chez les migrants et chez les autochtones et le total des dépenses, c'est-à-dire des transferts reçus par chacun de mes deux individus représentatifs. Cette structure des contributions nettes, qu'est-ce qu'elle nous indique ? Elle nous indique que ces contributions nettes sont négatives grosso modo avant 20 ans. Qu'elles sont négatives également après 60 ans, ça veut dire quoi ? Ça veut dire grosso modo que notre système redistributif en France effectue une redistribution qui va des actifs, les contributeurs nets aux finances publiques, ceux qui paient davantage qu'ils ne reçoivent de l'État, vers les inactifs, c'est-à-dire les jeunes et les plus vieux, qui eux reçoivent davantage de l'État, qui ne paient à l'État à un âge donné. Okay ? Une fois qu'on a ça, donc ça c'est la situation pour un individu représentatif à chaque âge et en fonction de son origine migrant autochtone, il suffit simplement de multiplier ce montant qui est le montant moyen par le nombre de personnes dans chacune des catégories d'âge parmi les migrants, parmi les natifs. Je vous ai remis ici les pyramides des âges de mes deux sous-populations. Simplement pour rappeler que ce qui caractérise la population des immigrés, c'est le fait qu'elle soit concentrée, surreprésentée parmi les catégories d'âge actives. Donc on multiplie la contribution moyenne à un âge donné par le nombre de personnes à chaque âge parmi les migrants, parmi les natifs. Ça nous donne donc la contribution nette globale aux finances publiques pour les natifs et pour les migrants, ce qui nous permet de décomposer donc mon surplus primaire entre la contribution des natifs et la contribution des migrants. Qu'est-ce que ça donne ? Vous avez en haut, donc par exemple, la première ligne vous donne le solde primaire. Donc le solde primaire, vous avez un signe positif, l'État a dépensé plus que ce qu'il n'a prélevé. Vous avez un signe négatif, c'est un déficit. Okay. Prenez par exemple l'année 1995. En 1995, le solde primaire se situait aux alentours de 35... le déficit primaire se situait aux alentours de 35 milliards d'euros. Sur ces 35 milliards d'euros, vous avez presque 32 milliards d'euros qui sont expliqués par la population des natifs. Vous avez à peu près 2,9 milliards d'euros qui sont expliqués par la population des immigrés. Donc on l'a fait pour chacune des années entre 1979 et 2011. On a donc la contribution nette de la population immigrée aux finances publiques. Ce qui est intéressant de constater, c'est de rapporter cette contribution nette par rapport à la création de richesses, c'est-à-dire par rapport au PIB. C'est ce que vous donne la ligne ici. Vous voyez que cette contribution nette rapportée au PIB est extrêmement faible. Parfois, elle est positive. Parfois, elle est négative. Elle se situe aux alentours de 0,1 à 0,2% du PIB. En ayant en tête que la population des immigrés, c'est à peu près 9% de la population totale. Donc on voit bien que l'immigration n'est pas la cause, on va dire, des déficits publics. D'accord ? Alors, me direz-vous, le problème de cette approche, c'est qu'il s'agit d'une approche purement statique. C'est-à-dire, c'est une espèce de photographie. À un instant donné du temps, en 79, en 84, jusqu'en 2011, je fais une photographie. Le problème qui se pose est que ce qui nous intéresserait, ce serait plutôt d'avoir un espèce de film. C'est-à-dire que l'immigration est un phénomène dynamique. Chaque année, vous avez de nouveaux migrants qui rentrent. On sait que chaque année, ces migrants sont plutôt jeunes. Et les migrants qui sont présents en France vont eux-mêmes connaître un vieillissement, c'est-à-dire qu'ils vont remonter la pyramide des âges. On sait également que les migrants présents en France font des enfants, que ces enfants, dans un premier temps, font supporter un coût à la société. Ce coût, c'est l'éducation. Que ces enfants grandiront, vieilliront, participeront eux-mêmes au marché du travail, puis partiront eux-mêmes à la retraite en ayant fait eux-mêmes des enfants. Donc, ce qui pourrait être intéressant de regarder, c'est avoir une vision dynamique de l'impact que l'immigration pourrait avoir sur la société française. Alors, cette approche, elle est un peu plus complexe et elle amène à utiliser ce que les économistes appellent un modèle d'équilibre général. Un modèle d'équilibre général, c'est un modèle qui va chercher à regrouper l'ensemble des effets qu'on a pu mettre en évidence jusqu'à présent. C'est-à-dire pas uniquement l'impact budgétaire de l'immigration, mais l'ensemble des effets démographiques et économiques que l'immigration peut avoir sur un pays. Alors quels sont les différents effets pour les rappeler assez rapidement ? Donc d'abord, l'immigration, elle induit une redistribution entre les travailleurs. L'immigration, elle peut potentiellement avoir un impact en termes de modification des niveaux de salaire sur le marché du travail. L'immigration, étant plus faiblement qualifiée, peut avoir un impact sur les finances publiques, même si on a vu que cet impact était relativement faible. Cette immigration, elle peut même avoir un impact en termes de comportement chez les natifs. Imaginons, vous faites rentrer beaucoup d'immigrés faiblement qualifiés, les natifs peuvent faire le choix progressivement de chercher à ne pas rentrer en concurrence avec cette immigration faiblement qualifiée en s'éduquant davantage. Vous voyez, les effets macroéconomiques peuvent véritablement être multiples. C'est l'ensemble de ces effets qu'on va chercher à combiner pour voir quel est l'impact de l'immigration à long terme sur l'économie française. Alors, pour ce faire, on propose d'abord ce qu'on pourrait appeler un scénario de référence. Ce scénario de référence, ce n'est pas notre vision de ce que sera l'économie française dans 50 ans, c'est ce que nous prévoient les principales institutions, les principaux organismes publics. Exemple, l'INSEE fournit régulièrement des projections de population. Par exemple, le COR, le Conseil d'orientation des retraites, fournit tous les ans des projections de ce que sera l'état du système de retraite à un horizon de 50 ans. C'est notre base de travail, c'est notre scénario de référence. Ce scénario de référence, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit qu'entre 2010 et 2060-2100, la France va connaître un problème de vieillissement de sa population et que ce problème de vieillissement de la population va induire, a priori, un problème de financement de la protection sociale. L'évaluation de ce besoin de financement est de l'ordre de presque 2 points de PIB à l'horizon 2060. C'est-à-dire qu'à partir de 2060, chaque année, il manquera 2 points de PIB pour permettre de financer le système de protection sociale français. Ce problème de financement provenant pour l'essentiel de la branche retraite et de la branche santé, c'est-à-dire les deux branches qui sont le plus affectées par l'accroissement de la part des personnes âgées dans la population française. Par rapport à ce scénario de référence, on a construit plusieurs scénarios migratoires alternatifs. L'idée étant de faire apparaître par effet de miroir, c'est-à-dire en comparant notre scénario de référence avec ces scénarios migratoires alternatifs, quelle est la contribution de l'immigration aux finances publiques. Premier scénario que l'on peut considérer, c'est une variante dite sans immigration, qui consiste simplement à considérer un flux net migratoire à partir de 2010. Donc ce ne sont plus 100 000 personnes nettes qui rentreraient chaque année en France, ce flux migratoire net passerait à zéro. Naturellement, ça a des conséquences démographiques assez fortes que l'on va analyser assez rapidement. Deuxième variante, qui est une variante totalement inverse, consiste à mettre en place une politique migratoire, cette fois-ci plus ambitieuse, qui consisterait à la fois à doubler progressivement le flux net migratoire. Donc ce n'est plus 100 000 personnes nettes qui rentreraient chaque année en France, mais on basculerait progressivement vers plus de 200 000 personnes nettes qui rentreraient chaque année en France. Politique migratoire qui n'est pas totalement irréaliste, puisque c'est celle que l'on observait par exemple au cours des années 60. En termes de proportion, 0,35% de solde migratoire net. Politique migratoire ambitieuse que l'on couplerait avec une immigration sélective. Chaque nouveau migrant qui rentrerait en France, on le sélectionnerait sur la base de son niveau de qualification. Et on chercherait ici à faire entrer uniquement des personnes hautement qualifiées. Quelle est l'idée que l'on cherche à tester ? Ben, on sait que ces personnes hautement qualifiées, vous avez ici donc la contribution nette des immigrants en fonction de leur âge, vous voyez que cette contribution nette, elle est très fortement supérieure lorsque vous faites rentrer des personnes hautement qualifiées. D'accord ? Donc l'idée, c'est de faire plutôt entrer en France des personnes dont la contribution aux finances publiques serait importante. Donc deux politiques migratoires, une où on stoppe les flux migratoires, une où on mène une politique migratoire plus ambitieuse. L'idée est de comparer l'impact de ces deux politiques migratoires en termes de finances publiques par rapport à notre scénario de référence. Quelles sont les conséquences ? Les conséquences, naturellement, elles sont d'abord démographiques. Vous avez donc dans le scénario central l'évolution de la population française. Par rapport à ce scénario de référence, vous avez l'impact du scénario sans immigration, l'impact du scénario immigration sélective. On voit que si l'on arrêtait les flux migratoires à partir de l'année 2010, la population française en 2060 serait 10% inférieure en taille à celle que l'on s'attend d'observer avec un prolongement des flux migratoires actuels. Inversement, si l'on menait une politique d'immigration sélective, plus d'immigrés, mais des immigrés plus fortement qualifiés, la population française serait supérieure de presque 13% par rapport à ce que nous donne l'INSEE dans ses projections de population. Okay ? La part des immigrés, naturellement, tendrait à diminuer dans le cas où l'on stopperait notre flux migratoire net et tendrait à augmenter sensiblement dans le cas où on doublerait notre flux migratoire. Enfin, ces deux politiques auraient des répercussions également en matière de structure par âge de la population. Structure par âge qu'on mesure ici par le ratio de dépendance, c'est-à-dire le rapport entre les plus de 65 ans, c'est-à-dire les personnes dépendantes, les retraités, et les actifs, les 15-64 ans. Ce ratio de dépendance, on sait qu'il va fortement augmenter. À l'horizon du siècle à venir, il va quasiment doubler. Si on arrête... si on mène une politique de fermeture des frontières, ce ratio de dépendance serait 3,6 points supérieur, c'est-à-dire que la population française vieillirait plus fortement. Par contre, en cas de politique migratoire ambitieuse, on voit que ce ratio de dépendance diminuerait dans un premier temps, et ensuite cette politique n'aurait quasiment plus aucun effet à long terme. Conclusion, regardons un petit peu les effets économiques. Les effets économiques consistent à regarder quel serait potentiellement le déficit de la protection sociale en fonction des différents scénarios observés. Scénario de référence, ici. Scénario de référence, en 2060, on sait qu'on a un besoin de financement de presque 2 points de PIB. Quel serait ce besoin de financement si on fermait les frontières? Solde migratoire net nul à partir de 2010. Ce besoin de financement, ce n'est plus moins 1,9%, c'est moins 1,9, moins 1. C'est-à-dire moins 2,9% de besoin de financement. Ce besoin de financement croît lorsque l'on ferme davantage les frontières. Pourquoi ? Bah, tout simplement parce que vous avez une population qui tend à vieillir plus fortement. Tout simplement parce que vous enlevez essentiellement des contributeurs nets aux finances publiques. Okay ? Que se passe-t-il maintenant si on regarde notre politique migratoire sélective ? Un flux migratoire qui double progressivement, mais un flux migratoire qui se porte sur des migrants plutôt hautement qualifiés. On observe que dans un premier temps, l'effet il est globalement plutôt positif. On voit que par exemple, en 2040, notre déficit public se transforme en surplus budgétaire. Donc le fait de faire venir plus de personnes et que ces personnes soient hautement qualifiées permet de résoudre en grande partie le problème du financement de la protection sociale. Mais on voit que cet effet tend à disparaître à long terme. Cet effet s'inverse à long terme pour quelle raison ? Bah, tout simplement parce que vous faites rentrer davantage de migrants jeunes, mais que ces migrants vont au fur et à mesure vieillir, et qu'il faudrait grosso modo toujours faire rentrer encore plus de migrants jeunes pour arriver à continuer à avoir cet effet positif à long terme. La deuxième raison, c'est que vous faites rentrer des migrants qualifiés, qui dans un premier temps ont une contribution nette aux finances publiques qui est sensiblement supérieure, mais qui dans un second temps vont vieillir, ces migrants hautement qualifiés, vont avoir une espérance de vie plus longue, vont bénéficier de niveaux de pension plus élevés, et migrants hautement qualifiés qui ont en plus un taux de fécondité inférieur, la fécondité étant corrélée, inversement corrélée avec le niveau d'éducation. On retrouve les taux de fécondité les plus élevés dans les catégories, dans les niveaux de diplôme les plus faibles. Donc mener une politique sélective induit donc un effet qui est globalement plutôt favorable en matière de finances publiques à court terme et à moyen terme, mais un effet qui tend à disparaître à long terme et qui amène à une conclusion assez simple qui consiste simplement à constater que, d'une part, l'immigration a peu d'effet sur les finances publiques. Cet effet, on le constate à la fois lorsqu'on fait des photographies instantanées, donc c'est l'impact comptable. Cet effet, on le retrouve également lorsqu'on observe un petit peu la dynamique migratoire. Donc l'immigration a peu d'impact sur les finances publiques, mais pour autant, l'immigration n'est certainement pas une solution au problème du vieillissement démographique. Elle peut, d'une certaine manière, y contribuer, mais cette contribution, elle n'est que marginale et elle tend à disparaître à long terme. Donc je pense qu'on peut peut-être s'arrêter ici. Donc on arrive un petit peu sur la barrière du temps et je me ferai un plaisir de répondre à vos éventuelles questions.
D'abord exprimer notre gratitude pour ces analyses, pour cette chaîne d'analyse absolument fascinante, qui à la fois vient complètement déconstruire
cette chaîne d'analyse, disais-je, cette trame d'analyse qui vient à la fois déconstruire des idées préconçues et puis en même temps raffermir des intuitions. Enfin, voilà, c'est quelque chose que je trouve tout à fait fascinant. Des questions, des interrogations, des commentaires. Je vous passe le micro. Ah,
j'ai besoin de réfléchir parce que c'était dans ça.
Alors, bon, pour vous aider, peut-être une question qui me... Ce qui se passe actuellement, bon, la supposée crise migratoire, est-ce qu'en tant qu'économiste, ça vous oblige à reprendre une nouvelle critériologie, une série de paramètres qui seraient différents, ou est-ce que l'appareillage interprétatif qui est le vôtre est suffisamment, dirais-je, solide et ample pour inclure ce qui se passe actuellement en Europe ?
Alors, dans le cas spécifique de la France, ça ne change rien au message global qui était le mien. C'est-à-dire que je suis parti d'éléments qui étaient des éléments purement démographiques qui consistaient à se dire que si la France est concernée par l'immigration, elle l'est beaucoup moins qu'un certain nombre de ses voisins. que si la France accueille chaque année à peu près 200 000 migrants, ces 200 000 migrants ont une contribution démographique qui est relativement faible. En la matière, si on s'intéresse spécifiquement à la catégorie des réfugiés, le poids de ces réfugiés dans le total des flux migratoires français demeure extrêmement faible. Donc on en arrivait à la conclusion que 200 000 migrants supplémentaires en France, c'est faible. Se dire que le nombre de réfugiés va doubler, c'est-à-dire passer peut-être de 10 000 à 20 000 personnes par an, vous voyez bien que c'est une goutte d'eau et c'est l'épaisseur du trait. C'est-à-dire que du point de vue d'un raisonnement macroéconomique global, c'est quelque chose qui sera totalement non mesurable. Donc non, ça ne change strictement rien à la problématique. Là où éventuellement on peut discuter un petit peu de cette question des réfugiés, mais je pense que l'économiste n'est pas le mieux à même pour le faire, c'est la structure et les caractéristiques propres que peuvent avoir cette population des réfugiés et la manière dont ces caractéristiques peuvent induire et influencer l'intégration de ces réfugiés sur le marché du travail.
Vraiment vous remercier parce que vous l'avez amené en fait l'économie d'une façon extrêmement, je trouve, dynamique pour penser justement cette ouverture que cela peut apporter. Et je me disais par rapport justement à l'Allemagne, à ce 1 million de réfugiés, est-ce que ça leur apporte une politique qui va donner quelque chose sur la natalité importante, ou est-ce que ça...
La perspective ou les perspectives démographiques allemandes sont très différentes de ce qu'on connaît dans le cas de la France. C'est-à-dire qu'on a deux économies qui vieillissent, mais qui ne vieillissent pas de la même manière. L'Allemagne, on va commencer peut-être par la France. La France connaît un vieillissement de sa population qui est essentiellement un vieillissement par le haut de la pyramide des âges. C'est-à-dire un vieillissement qui consiste simplement à voir remonter les classes d'âge les plus nombreuses, et notamment les générations du baby-boom, dans la pyramide des âges. Et ce vieillissement, finalement, il résulte d'une bonne nouvelle. Nous vivons plus longtemps. L'espérance de vie tend à augmenter. Ça, c'est un vieillissement par le haut de la pyramide des âges. L'Allemagne connaît à la fois ce vieillissement par le haut, comme c'est le cas en France, mais également un vieillissement par le bas de la pyramide des âges. Le vieillissement par le bas de la pyramide des âges, c'est quoi ? C'est le fait qu'on ne fasse plus assez d'enfants. Tout à l'heure, on parlait de la fécondité française. La France est une espèce d'exception en Europe. La France est l'un des seuls pays, avec l'Irlande, à avoir une fécondité qui est aux alentours de ce qu'on appelle le seuil de renouvellement des générations, c'est-à-dire aux alentours de 2,1 enfants par femme. L'Allemagne a un indicateur conjoncturel de fécondité qui se situe plutôt aux alentours de 1,3 à 1,4 enfants par femme. Beaucoup plus faible. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la pyramide des âges allemande, elle est très rétrécie, elle a la forme d'une toupie vers le bas. Chose que l'on ne retrouve pas dans le cas français. Donc on a un vieillissement démographique qui est beaucoup plus marqué et qui a surtout pour conséquence de se traduire par une réduction de la population active à terme. En France, toutes les projections de l'INSEE aboutissent à une relative stabilité de la population active française. En Allemagne, on s'attend à ce que la population active allemande se réduise d'environ un tiers à l'horizon 2050-2060. Moins d'actifs, ça veut dire moins de production de richesses, ça veut dire un certain nombre d'interrogations également sur les capacités que l'on aura en Allemagne à pouvoir pourvoir ces emplois qui découle donc de ces départs nombreux à la retraite. Donc la problématique, elle est très différente lorsqu'on compare le cas français et le cas allemand, et explique pourquoi également la manière d'aborder le phénomène migratoire est relativement différente.
Je crois savoir aussi que la politique sociale et la santé, les cotisations, c'est pas du tout la même chose en Allemagne qu'en France, je crois. Au niveau, dans ce que j'en connais, de la scolarisation des enfants très jeunes ou de l'accès à la santé, c'est pas...
Effectivement, les systèmes de protection sociaux sont relativement différents dans les deux pays. Pour autant, ce que nous amènent les comparaisons internationales, et en particulier, il y a l'OCDE qui s'est intéressé à cette question notamment de l'impact fiscal de l'immigration, et d'aboutir globalement sur l'ensemble des pays de l'OCDE à une vision qui est très proche de ce que je vous ai présenté. C'est-à-dire, quel que soit le type de protection sociale, en particulier, on a l'habitude, par exemple, d'opposer les systèmes bismarckiens et beveridgiens. Quel que soit le type de protection sociale, l'immigration a toujours une contribution extrêmement faible sur les budgets sociaux. Pour quelle raison ? Parce que, quel que soit le pays considéré, on se retrouve toujours avec une population immigrée qui a une structure par âge très différente et relativement moins vieillissante que celle qu'on observe dans le pays en question. Pour donner quelques ordres de grandeur, si on prend l'étude par exemple qui a été menée par l'OCDE, cette contribution nette aux finances publiques, elle se situe en moyenne entre moins 0,2 et plus 0,2% du PIB. C'est-à-dire que vous voyez, je me situe dans cette fourchette avec ces travaux spécifiques au cas français, et je suis pleinement donc dans le cœur de cette fourchette telle qu'elle est fournie par l'OCDE dans ses comparaisons internationales, c'est-à-dire sur une trentaine de pays. Lorsqu'on travaille, vous voyez bien, sur 30 pays qu'on obtient à chaque fois la même chose, on peut se dire qu'on a une certaine stabilité et une certaine robustesse statistique dans le résultat que l'on obtient.
Juste une idée qui me passait par la tête. En fait, Trump, dans ce qu'il est en train de faire, il va peut-être justement démontrer que c'est intéressant d'avoir une immigration.
Peut-être on va avoir un contre-exemple, effectivement.
Non, ça va, allez-y.
Simplement, j'ai deux questions, mais vraiment de béotienne. C'était juste, d'une part, sur les demandeurs d'asile. Statistiquement, combien de demandes sont déboutées par an et combien de demandes sont acceptées ?
J'ai encore le graphique sous la main ici. Hein.
Oui. Donc,
Le total des demandes, c'est à peu près 80 000 personnes. Oui. C'était en 2015. Oui. Le total des attributions, c'est à peu près 20 000 personnes. Oui. Donc c'est une sur quatre.
Merci. Et ma deuxième question, c'était dans votre scénario avec les deux hypothèses. Dans la seconde hypothèse, vous choisissez ces deux facteurs-là. Dans mon souvenir, c'était une immigration ambitieuse.
Plus nombreuse.
Et bon. Choisie. Oui. Ou choisie.
C'est les deux en même temps.
Et choisie, d'accord.
C'est à la fois plus de migrants et plus qualifiés.
Et pourquoi plus qualifiés ?
L'idée, c'était simplement justement de se positionner par quelque chose qu'on a retrouvé dans le débat public. Hein. Rappelez-vous de cette fameuse immigration choisie versus d'accord. immigration subie. C'était un petit peu de voir quelles seraient les conséquences, à la fois à court terme, mais également à long terme de cette immigration choisie.
D'accord.
Et l'idée était simplement de... on ne savait pas ce qu'on allait obtenir au départ, de montrer que à long terme, cette immigration choisie a des conséquences qui restent quand même relativement modérées par rapport à un phénomène qui est d'une ampleur beaucoup plus forte, qui est celui de la modification de la structure par âge de la population française.
Et donc, une question encore de quelqu'un qui vraiment est une béotienne. Quelle est la législation actuellement en termes d'immigration ? Y a-t-il ouvertement ou pas, légalement ou pas, une immigration choisie ?
Très peu en France. Très peu en France. L'immigration choisie, elle joue, on va dire, sur celle qui relève d'un motif lié au marché du travail. On a vu que ce motif travail représente à peu près moins de 20 000 personnes par rapport aux 200 000 migrants qui rentrent chaque année en France. Donc c'est là effectivement où on peut chercher des adéquations entre les postes que l'on cherche à pourvoir et cette population que l'on cherche à venir. Pour autant, cette migration de travail, elle reste à des niveaux relativement faibles comparativement aux autres formes d'immigration et notamment celles qui relèvent du motif familial.
Merci.
Je dois dire que Xavier Chojniki a une extraordinaire générosité didactique, dont nous aimerions encore profiter, mais il a aussi un train à prendre. Et donc je suis obligé de finir brutalement comme ça cette séance en lui exprimant vraiment notre plus sincère gratitude pour cette brillante intervention qui amène énormément à notre réflexion sur l'exil et la migration aujourd'hui. Merci encore.
C'est moi. Merci.